6h04, mercredi 19 septembre. Bonne journée, bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. Alors, c'est beaucoup plus frais ce matin, 12 degrés, ciel généralement nuageux. Et on prévoit que les nuages seront très présents pour le début de la journée. Par contre, en après-midi, un dégagement, donc des périodes de soleil, avec un maximum autour de 18 degrés. Demain, jeudi, soleil, nuage, 21. Vendredi, on prévoit du temps très, très maussade, averse, venteux, maximum de 23. Et pour le week-end jusqu'à maintenant, ça s'annonçait très bien. Puis là, c'est comme un peu perturbé. Samedi, on prévoit des averses, 18 degrés. Dimanche, soleil, nuage, faible risque d'averse, encore là, 17 degrés. Commençons par la politique. Le sondage léger, rendu public hier par le réseau TVA. Si on a à dire une chose ce matin, c'est que ça ne va pas très bien pour la CAQ et François Legault. Depuis le début de la campagne, la CAQ baisse. Et là, dernier coup de sonde, ça donne 31 % à la CAQ, 30 % aux libéraux, 21 % au Parti québécois et 14 % à Québec solidaire de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois. La CAQ demeure en avance chez les francophones, avance plus que confortable dans la région de Québec. Mais c'est sûr que le PQ a grimpé un peu, Québec solidaire aussi. Les libéraux, c'est stable. Et on verra les projections aujourd'hui, j'en ai vu quelques-unes, là, mais essentiellement, ça veut dire que François Legault est dans une zone de gouvernement minoritaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs facteurs peuvent évidemment contribuer. Est-ce que c'est le débat sur l'immigration? Je rappelle que dans le sondage, il y a quand même une majorité de Québécois qui ne s'opposent pas à l'immigration, ou en tout cas même pas une réduction du nombre d'immigrants. Est-ce que ce sont les bourdes de la fin de semaine? Peut-être. Est-ce que ça joue, semble-t-il? Mais c'est comme si les gens disaient, on est parti avec l'idée de changer de gouvernement. On s'est rangé dans un premier temps du côté de la CAQ, mais c'est pas, dans bien des cas, un choix final. On pourrait changer d'idée. Moi, ce qui me dépasse, je dois vous dire, là, c'est quand on nous présente comme les vases communicants entre la CAQ et Québec solidaire. S'il y a deux univers qui m'apparaissent tellement différents, tu sais, je comprends qu'on veut peut-être voter pour du changement, mais je ne sais pas comment tu fais pour passer de la CAQ à Québec solidaire ou l'inverse. Je trouve ça assez spécial. Quant au Parti québécois, ça peut leur permettre de sauver les meubles et donc de faire élire assez de députés pour être officiellement reconnus. Il semble d'ailleurs que les Québécois trouvent qu'il a été le meilleur au débat des chefs, qu'il fait une excellente campagne et que peut-être qu'en bout de ligne, il pourrait causer des surprises. Je ne pense pas qu'il va rattraper, là, parce que quand même, le vote par anticipation, ça commence en fin de semaine. Puis il y a un débat demain. Et ce débat sera fondamental pour François Legault. C'est-à-dire que là, il y a intérêt à trouver le bon ton puis les bonnes expressions puis de faire comprendre aux Québécois qu'il a la stature d'un premier ministre et qu'il peut incarner le changement qu'il propose. Et on voit que la campagne est axée sur le chef. L'équipe est pas mal en périphérie. On les voit pas beaucoup. Est-ce qu'on va corriger ça pendant les derniers moments de la campagne? C'est dans le cas du Parti québécois, bon, vous allez me dire, on a Lisée et Véronique Yvon, c'est vrai. Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois. Parti libéral, on voit un peu les ministres, mais pas tant que ça. Alors qu'à la CAQ, il y a des débats, là, mais mis à part, donc l'emphase est vraiment sur le chef. L'autre chose, et je sais que là, l'espèce d'exercice pendant la campagne pour les journalistes, c'est de faire des quiz avec les candidats. Alors, quelles sont les provinces bilingues au Canada? Puis de tester sur les politiques d'immigration. Ça, tu peux le faire parce que le gars te parle d'immigration. Il est mieux de maîtriser le dossier. Et là, Philippe Couillard a dit, et je pense qu'il a raison, là, on n'est pas pour commencer à transformer les points de presse en jeu questionnaire là, ou en quiz. Parce que un point de presse puis une campagne électorale, si c'est ça l'idée, on va se retirer pour revoir nos notes, puis on va répondre à vos questions. C'est comme quelqu'un demandait un jour à un candidat, c'est quoi le prix du beurre? Ça se peut que le candidat soit pas au courant parce que c'est peut-être pas lui qui fait l'épicerie. C'est peut-être... Mais là, tu peux-tu savoir le prix du beurre par cœur, le prix du lait par cœur? Sincèrement, c'est-tu bien fondamental dans la campagne électorale? à moins de vouloir nous montrer que les chefs sont quand même pas trop forts ou ont des connaissances générales limitées. C'est ça l'objectif. On s'éloigne, personnellement, je trouve, puis là, je suis d'accord avec le premier ministre là-dessus. C'est OK, on veut montrer que François Legault n'est pas au courant de, je sais pas, le prix du beurre, comme je disais, puis le statut du Nouveau-Brunswick. Puis lui, là, il va venir le train, puis il dit, moi, je vais prendre ça en délibéré. Tu ne veux pas tomber dans la trappe. Alors, tu sais, aujourd'hui, ça va être quoi la question de génie en herbe qu'on va poser aux candidats. Alors, voilà pour ce qui est de l'élection. Pour le reste, on a eu les quelques promesses. M. Lisée a trouvé, c'est pas trop comment, là, mais il a refait ses calculs, il a trouvé des places additionnelles en garderie. Donc, on pourrait ajouter 4000 places de plus, selon lui. Et en plus de ça, bon, dans le cas de la CAQ, on se contente, et on sait qu'on se prépare pour le débat, là, d'annonces assez limitées. Même chose pour les libéraux. Là, je vous le dis, l'étape des grandes promesses, c'est pas mal terminé. Et après le débat, ben là, c'est le sprint qui s'engage en vue du scrutin du 1er octobre. On va aller retrouver Marc, 6h10, les points chauds, monsieur. Merci beaucoup. Il y a une nouvelle qui frappe ce matin. On l'a vu hier, là. Uniselect qui pourrait être vendu, ou en tout cas pourrait se départir de certains actifs. Ça pourrait vouloir dire que le siège social va quitter le Québec. Uniselect, c'est un géant de la distribution de pièces automobiles. Et dans le Journal de Montréal ce matin, il y a un bon portrait de l'entreprise qui raconte que ce sont des entrepreneurs là, qui, il y a 50 ans, ont décidé de se regrouper. Ils étaient 12 parce qu'ils trouvaient qu'ils payaient trop cher puis que les distributeurs du Canada anglais n'étaient pas... en fait, ils ont trouvé là une niche, une opportunité. Parce qu'ils étaient insatisfaits du service fourni par des entreprises canadiennes. Alors, ça a été quand même une montée spectaculaire. Et rapidement, on a atteint des chiffres d'affaires vraiment majeurs, là. On parle ici au-delà du milliard de dollars. Et on a rayonné dans le monde. D'ailleurs, je regarde les chiffres, là. L'an dernier, 56 % des ventes provenaient des États-Unis, 34 % du Canada et 10 % de l'Europe. Or, les ventes ont un peu ralenti et on a donc décidé, et ça fait 50 ans que ça existe, et on a décidé, l'expression qui est utilisée, là, c'est des solutions de rechange stratégiques. Ça veut dire qu'on veut vendre ou se départir de certains actifs. Alors, les profits nets en 2017 étaient de 44 millions de dollars américains. Alors, c'est quand même triste. Ça fait penser un peu à Rona, dont on parlait avec la sortie du livre de Robert Dutton. Aussi, ce matin, et on peut comprendre, là, les usagers du train de Deux-Montagnes sont tannés. Puis ils sont évidemment comme prisonniers en raison des travaux du REM. Et là, c'est rien parce que ça va être pire l'an prochain. Et ce qui fait que des gens ont décidé soit de prendre leur voiture, d'autres qui... puis là, on donne le cas de quelqu'un qui déménage. Alors, parce qu'il ne voulait pas se taper les heures de congestion. Mais là, vous avez des retards, ce qui fait que l'achalandage a baissé à la rentrée de 6 à 7 Et en plus, les gens se plaignent qu'ils sont comme tassés dans le train. Les horaires ne sont pas fiables. Détérioration des services. Les photos d'usagers sur les quais et dans les trains aussi. Alors, ce qui fait qu'on est vraiment furieux. Et là, on demande aux gestionnaires de trouver finalement des façons de faire là, pour que l'expérience soit quand même plus agréable. Ça n'arrivera pas, là, je vous le dis tout de suite. Mais c'est une situation qui fait que ce sont les gens qui se détériorent. Je comprends qu'il faut faire les travaux, là, mais c'est comme toujours. C'est comme toujours. Il y a des travaux à faire et je répète que l'usager n'est pas vraiment considéré. Puis on donnait en début d'émission des exemples, des informations qui ne se rendent pas, des fausses informations sur les sites, des fermetures prématurées. On se passe la rondelle pour savoir c'est qui. Puis ça a plein de comités là, sur la mobilité et on est supposé être proactif. Dans les faits, c'est un désintéressement à l'égard des automobilistes. Si vous êtes pris là-dedans, ben vous serez pris là-dedans. Puis si tu es habitué de prendre le train à Deux-Montagnes, puis que le train n'est pas disponible parce que ou il y a des retards, ben vis avec, sinon débrouille-toi. Et c'est ça, malheureusement, l'espèce de service à la clientèle qui vous est proposé. Je vais parler avec Normand Mousseau un peu plus tard ce matin sur les perspectives énergétiques canadiennes. C'est un rapport qui tente de faire des projections sur les défis d'ici 2050 au Canada pour chacune des provinces. C'est sûr qu'au Québec, compte tenu qu'on produit d'électricité, on n'est pas dans le cas de l'Alberta avec les sables bitumineux, on se positionne quand même relativement bien au Canada. Mais par contre, c'est sûr que le Canada a des défis parce que le Canada exporte, le Canada consomme, est dans le top 10 des pays consommateurs d'énergie dans le monde. Et ce qu'on constate, c'est que s'il n'y a pas un virage radical, on n'atteindra pas l'objectif. Et on a eu un débat la semaine dernière, est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on peut vraiment renverser la machine? Aux Nations Unies, le secrétaire général dit que c'est trop tard, puis que dans 2 ans, on va subir les premiers contre-coups majeurs. Alors, et comment on fait ça? Alors, avec Normand Mousseau, tantôt, on va pouvoir parler de ce virage, puis ça devrait aussi être un enjeu de la campagne électorale. Semble-t-il, je voyais hier le point de presse de la Sûreté du Québec concernant le cannabis qui est vendu illégalement en ligne. Ça, j'avoue, j'ai été surpris. Mais il paraît que c'est quand même un phénomène réel, toujours difficile à évaluer, là. Hier, on disait que peut-être des pertes de revenus pour le gouvernement, parce que la Sûreté du Québec fait ses opérations là, de potes dans les champs, primo, et deuxièmement, tente de trouver les réseaux de distribution. Mais je pensais pas qu'on vendait du pot en ligne, puis que la livraison se faisait, puis qu'on encaissait l'argent quasiment comme c'était une transaction tout à fait normale. Et on sait que c'est le monopole de la vente à l'État pour le 17 octobre, et que vous n'aurez pas le droit de produire des plants chez vous. Même si le fédéral dit que vous avez le droit, Québec a dit non. On parlait de ce prédateur sexuel à Longueuil. Là, hier, j'entends cette nouvelle-là. Des gestes à caractère sexuel répétés dans les bibliothèques de la ville de Longueuil. Là, tu dis, mais de quoi on parle? Ce sont des gens qui se sont confiés au Courrier du Sud, qui travaillent donc, des employés, là, qui travaillent dans les bibliothèques, qui ont vu des hommes se masturber installés devant des ordinateurs, également eu des commentaires à connotation sexuelle, des contacts non sollicités et même du harcèlement dans une bibliothèque. Alors là, évidemment, les employés se disaient stressés. Quelqu'un va se branler dans une bibliothèque? Non, mais tu sais, ça se peut que... Alors là, il y a des caméras. Alors, donc, avis aux branleux. Il y a des caméras qui peuvent maintenant peut-être vous observer dans les endroits comme... On sait que c'est un endroit propice à cela, une bibliothèque, évidemment. Nombre record d'élèves en francisation à la Commission scolaire de Montréal, c'est dans le devoir. 84% pourcentage d'augmentation des inscriptions. Et donc, des élèves qui viennent de partout dans le monde. Et là, les classes d'accueil sont fortement sollicitées. Et c'est quand même assez... c'est une bonne nouvelle dans un sens. Mais est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'on fait ça correctement? Ou si on crée l'illusion qu'on francise? Toujours le problème avec ces chiffres-là. Mais je parlais hier avec la présidente de la CSDM. Tu sais, 2000 élèves qui débarquent. Puis t'as une augmentation quand même importante de cas de francisation. Puis tu sais, il faut se mettre dans le contexte, là. Des gens qui arrivent de tous les pays, des cultures différentes, maîtrisent pas la langue et tentent de s'intégrer. Pour la deuxième génération, ce sera plus facile pour les enfants, mais il faut que tu apprennes la langue, il faut que tu trouves du travail et il faut que tu vives aussi. Et comment tu fais pour faire les bons choix? C'est pas simple. Je sais pas si vous suivez la saga de la nomination du juge Kavanaugh, qui est un juge donc choisi par le président Trump pour être le prochain juge de la Cour suprême. Et là, là-bas, il y a un comité qui étudie la candidature et qui doit voter. C'est extrêmement partisan, comme d'habitude, là. Mais dans le cas qui nous intéresse, il y a une femme qui a levé la main, qui s'appelle Christine Ford, et qui dit, il y a 30 ans, Kavanaugh, dans un party d'école, alors qu'il était complètement ivre, m'a agressé sexuellement. Un de ses amis gardait la porte, était à l'extérieur, et lui m'a sauté dessus. J'ai réussi à me débattre puis à me pousser. Et j'avais décidé de taire l'affaire, mais voyant qu'il pouvait accéder à la Cour suprême, je me suis dit que c'était impensable de le laisser faire. Elle a donc contacté des démocrates cet été. Et là, l'histoire, évidemment, vient de faire surface. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de convoquer le juge, qui lui a nié, en disant que c'est jamais arrivé cette histoire-là, convoquer la plaignante, puis on va les entendre. Et là, la plaignante dit, moi, je veux bien y aller, mais je veux qu'il y ait une enquête de police. Et hier, on a localisé finalement le deuxième, celui qui était supposé être dans le corridor pendant que le juge en devenir était en train, prétend-on, d'agresser la femme en question. Il lui dit que c'est complètement faux. Et c'est un gars qui est assez bizarre, qui tient des propos, disons, qui, pour être poli, là, c'est pas très édifiant l'endroit des femmes. La violence conjugale, ça parlait de l'énerver. Le MeToo, il trouve que c'est un paquet de troubles. Ça, c'est un témoin qu'on pourrait amener. Donc, pour établir la crédibilité du juge. Mais ça serait quand même assez spectaculaire que cette femme témoigne. Puis, dans le fond, on va apprécier la crédibilité des témoignages. Puis après ça, il doit voter pour savoir est-ce que tu le nommes ou pas comme juge à la Cour suprême. Et un mot, là, il y a cette histoire de TVA, là, Matt Goldwater qui aimerait sauver le chien de Montréal-Nord, là, qui a attaqué, je vous le rappelle, quand même 6 personnes, 4 enfants. Moi, je pensais qu'il avait été euthanasié, pour tout vous dire. Eh bien, non. Parce que là, le DPCP n'a pas encore statué, me disait Monique. Et tant qu'on n'a pas décidé si on accuse la femme en question, la grand-mère, là, qui vend des stupéfiants dans ses moments de loisirs, ben là, le pitbull est gardé. Puis je me souviens que la mairesse, Mme Black de Montréal-Nord, m'avait dit que le chien était pas mal agressif. Je ne sais pas s'il s'est calmé, là. Mais même dans sa cage à la SPCA, c'était un animal qui était super agressif. Puis là, Maître Goldwater, on sait, défend le pitbull avec beaucoup de passion. Ben, elle voudrait finalement peut-être l'adopter. Bref, le sauver. 6h22. Autoroute des Laurentides.